Le gouvernement souhaite soutenir le secteur minier dans cette période de crise et renouvelle plusieurs autorisations d'export. Voilà ce qui ressort de sa réunion hebdomadaire où l'on retiendra également la nomination de Naya Watéou comme présidente de l'OPT. Le CESE souhaite devenir le représentant de la société civile. Le Conseil économique, social et environnemental lance donc une plateforme de pétition citoyenne pour donner de la voix aux Calédoniens. Le dépistage du rhumatisme articulaire aigu pris au sérieux par la SSNC. L'agence sanitaire et sociale était ce matin dans une école de Caméré pour réaliser des échographies sur les élèves. Les jeunes se mettent au tri. 20 élus du conseil municipal junior ont participé aujourd'hui à une animation sur la valorisation des déchets pour devenir les éco-ambassadeurs de demain. Un mondialito qui rassemble, 1000 élèves du lycée Blaise Pascal étaient ce matin sur le stade Pentecôte pour renforcer leur cohésion grâce au football. Bonsoir à tous. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tenait ce mercredi sa séance hebdomadaire. Plusieurs points à l'ordre du jour et notamment un nouveau signe de soutien pour le secteur du nickel, Michael Juneski.
Oui, en période de crise, l'exécutif a en effet validé aujourd'hui le renouvellement de l'autorisation d'export de minerais à destination du Japon pour la Société des Mines de la Tontouta pour une durée de 10 ans du minerai de type saprolitique dans les mêmes conditions que ce que la SMT procédait déjà, soit 650 000 tonnes humides pour la société Sumitomo Metal Mining Company. D'autres renouvellements d'autorisation d'exportation devraient suivre dans les prochains mois. Une décision prise à l'unanimité des membres du gouvernement. Christopher Gigès est le porte-parole de l'exécutif.
Il y a la question des exportations minières qui ont été renouvelées pour la société SMT de Tontouta vers le Japon. C'est un point important parce qu'on souhaite vraiment soutenir le secteur minier à passer cette crise et c'est important de montrer qu'on peut renouveler ces exportations. Un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, ont été étudiées dans le cadre du comité de commerce extérieur minier récemment. Le président du gouvernement préside également. Et donc, d'autres exportations devraient passer pour soutenir cette filière qui est stratégique pour la Calédonie. On était sur un renouvellement, mais c'est vrai que d'habitude, il y a beaucoup de débats autour des exportations. Mais là, je crois que tout le monde a conscience que le secteur du nickel est dans une situation extrêmement difficile, comme d'autres secteurs d'activité. Il est important d'envoyer des signes. Et des signes, c'est d'autoriser des exportations, c'est de bien les contrôler, pour savoir ce qu'on envoie, mais parfois c'est de savoir les autoriser un peu plus vite que ce qu'on fait.
Et par ailleurs, parmi les décisions du gouvernement également, des nominations. Et Naya Watéou est devenue aujourd'hui la présidente de l'OPT. L'élue de la province sud et du Congrès devient au passage la première femme à présider le conseil d'administration de l'Office des Postes et des Télécommunications. Elle remplace à ce poste Yoann Lecourieux. On retrouve à ce propos Christopher Gigès.
C'est la première femme qui est nommée présidente du conseil d'administration de l'OPT. Je l'ai pas nommée parce que c'est une femme, mais je l'ai nommée parce qu'elle est extrêmement compétente, extrêmement engagée, et je crois qu'elle fera du bon travail, on fera du bon travail ensemble sur ce secteur. Naya, elle est élue depuis 2019 à la province sud et au Congrès. Elle assure un rôle de chef de groupe d'un des partis politiques de la province sud. Elle a assuré la présidence du SMTU où elle a fait de l'excellent travail dans la période compliquée. Donc là, la nommer à la tête de l'Office des Postes était quelque chose de naturel.
Autre direction qui a vu la nomination de plusieurs nouveaux membres pour siéger au sein de son conseil d'administration, l'Agence pour la desserte aérienne. Alcide Ponga, Philippe Dunoyer, Christopher Gigès et Mila Koulotoukoumouli sont donc nommés administrateurs. Il restera au conseil d'administration de procéder à l'élection de son président. Et puis, concernant le trafic aérien, le gouvernement a également approuvé aujourd'hui notamment le programme d'exploitation des services réguliers d'Air Calin. Comme l'année dernière, la desserte de l'Asie est recentrée sur Singapour, mais les rotations Tontouta à Singapour passent néanmoins de 4 à 3 rotations hebdomadaires pour s'adapter au plus près à la demande. Et Bangkok, dont la desserte est maintenue à 2 rotations hebdomadaires, précise le gouvernement. Concernant le thème de la fiscalité, Christopher Gigès, en charge de ce secteur au sein de l'exécutif, a également tenu à apporter des précisions concernant l'évolution de la CCS, la contribution calédonienne de solidarité.
On a beaucoup entendu que la CCS rentrerait en vigueur au 1er avril. C'est un texte qui a été adopté en décembre de l'année dernière. Mais ce texte, il ne rentrera en vigueur que si, concomitamment, il y a une baisse des charges sociales qui permet de compenser la hausse de la CCS pour éviter aux Calédoniens de faire perdre du pouvoir d'achat. Le gouvernement proposera, lors de l'examen du budget de la Nouvelle-Calédonie vendredi, un amendement qui viendra baisser les charges sociales à rendement équivalent de la hausse de la CCS pour que les Calédoniens ne perdent pas de pouvoir d'achat. On aura une grande conférence fiscale et sociale qui abordera le coût du travail de manière générale. Mais là, c'était une des conditions posées par l'État dans le cadre des différentes conventions, cette augmentation de la CCS. Et le fait de baisser les charges sociales était une vraie volonté de la Nouvelle-Calédonie pour ne pas pénaliser les Calédoniens.
L'amendement pour acter donc la baisse des charges sociales afin de compenser cette hausse de la CCS doit être présenté aux élus du Congrès vendredi prochain lors de l'examen du budget primitif 2025 de la Nouvelle-Calédonie.
Manuel Valls confirme son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer sera ici du 29 mars au 1er avril et à cette occasion, il espère entamer de véritables négociations politiques. C'est ce qu'il a dit lors de son audition par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, Elisabeth Noir.
À l'issue de son premier déplacement fin février début mars, le ministre des Outre-mer avait rendu public un document qui faisait le point sur les discussions qu'il avait eues avec les différents groupes politiques. Depuis, chaque camp a organisé des réunions d'information auprès de ses militants et des ateliers se déroulent quotidiennement en visioconférence entre le cabinet du ministre et les délégations politiques. Ces ateliers portent sur les compétences régaliennes, la gouvernance, la citoyenneté et le corps électoral ou encore le nouveau projet de société. Des ateliers qui doivent alimenter le prochain round de discussion. Mais la nuit dernière, pour nous, face à la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, Manuel Valls a clairement dit, en évoquant la situation de la Nouvelle-Calédonie, qu'il espérait rentrer dans une phase de véritable négociation.
Nous sommes en effet à un moment décisif, historique. Seul le dialogue permettra de reconstruire un projet commun et partagé et d'imposer la paix civile. Je pense que nous avons recréé, mais je suis extrêmement prudent, modeste, nous avons recréé les conditions de ce dialogue à la fin du mois de février lors de mon premier déplacement. Tout est fragile, mais j'y retourne sur place dès ce jeudi. J'espère qu'à partir de samedi, nous pourrons entamer de véritables négociations politiques. Vous m'auditionnerez sur la situation en Nouvelle-Calédonie au début du mois de mai. J'aurai alors davantage, je l'espère, de précisions à vous donner. Et je l'espère de bonnes nouvelles à vous annoncer, mais je répondrai évidemment à vos questions.
Le député Nicolas Mézenhoff a assisté à cette audition par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale et il est intervenu en interrogeant le ministre sur l'expression de lien avec la France, expression qu'il trouve inappropriée. Il avait été reçu auparavant par le ministre des Outre-mer, Ruudino, un tête-à-tête de 2 heures, au cours duquel Nicolas Mézenhoff a dit à notre correspondant à Paris, Xavier Robert, qu'il avait rappelé au ministre les fondamentaux du camp loyaliste avant l'ouverture des négociations.
On est prêt éventuellement à des compromis, mais pas de la compromission. Et donc c'est ce que j'ai rappelé au ministre Valls, c'est-à-dire que nous, on est toujours dans le respect de la démocratie des 3 référendums et du droit de vote des Calédoniens au travers l'ouverture du corps électoral. On est sur la sécurité pour tous et on est pour l'égalité entre tous les Calédoniens, qu'on soit Kanak ou pas. Donc à partir du moment où ces fondamentaux sont respectés, nous, on est OK pour ouvrir la discussion. Par contre, je lui ai rappelé que, comme on l'a toujours dit, pas d'accord vers l'indépendance, pas d'accord vers l'indépendance association, pas d'accord vers une quelconque trajectoire qui irait vers une forme d'indépendance. Donc je crois que le ministre avait bien compris le message déjà, mais ça a été un moment pour moi pour le lui rappeler.
La visite de Manuel Valls débute donc ce samedi 29 mars et il doit repartir dans la nuit de mardi à mercredi. 4 jours qui devraient être consacrés quasi exclusivement aux discussions sur l'avenir institutionnel.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. La relance du dispositif bouclier qualité-prix avec une liste de produits à prix bloqué peut-elle permettre, selon vous, de lutter contre la cherté de la vie? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 56% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut impérativement sauver l'enseignement catholique de Nouvelle-Calédonie. Ils sont 44% à être d'un avis contraire. En bref, les élus de Nouméa sont réunis depuis 17h30 pour un conseil municipal, une séance très largement consacrée à l'examen du budget primitif et des budgets annexes 2025 de la commune. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Le budget, il en sera question aussi demain. Les élus de la province sud qui se réunissent demain matin à partir de 9h en séance publique vont examiner 7 points inscrits à l'ordre du jour. Ils doivent notamment adopter la décision modificative numéro 1 du budget 2025, deux textes relatifs à l'urbanisme, mais aussi un texte relatif à l'environnement, puisqu'ils prendront connaissance du rapport de la Chambre territoriale des comptes concernant les mesures d'adaptation prises face au risque du trait de côte. Et notez également ces rendez-vous sur notre antenne. Le marché de l'emploi est bouleversé en Calédonie et la situation s'est gravement dégradée après les émeutes insurrectionnelles. Quels dispositifs sont mis en place pour relancer le marché de l'emploi? Où en est la question de la prise en charge des différents régimes de chômage? Jean-François Baudin fera le point demain midi dans les Jeudis de l'économie. Il recevra notamment Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'emploi, Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA, et Julien Barras, président de la commission emploi-formation du MEDEF. On parle peu des instituts de recherche calédoniens qui rencontrent eux aussi des difficultés de fonctionnement. L'IAC, l'Institut agronomique calédonien, établissement public de la Nouvelle-Calédonie, n'échappe pas à cette situation. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et quel impact sur ces programmes de recherche? Laurent L'Huillier, le directeur de l'IAC, sera demain matin notre invité à 7h30.
RRB 17h56.
Les particuliers peuvent désormais faire entendre leur voix et soumettre des propositions au CESE. Depuis une dizaine de jours, une plateforme de pétition citoyenne a été lancée sur Internet. Ce projet a été officialisé en 2022, mais ne s'est concrétisé que ce mois-ci, dans un contexte économique compliqué sur le territoire. Une période d'autant plus importante où il est nécessaire de donner la parole aux citoyens, explique Jean-Louis Dangleberne, le président du CESE.
C'est un des moyens de permettre à la population de s'exprimer, que des travaux puissent être faits et portés au niveau des institutions qui, eux, décident de mettre en œuvre à la limite des délibérations des lois du pays qui correspondraient aux vœux que l'on aura émis à la suite de ces pétitions citoyennes. Donc là, nous, c'est un moyen au niveau institutionnel de faire avancer des choses que les citoyens portent en eux et qui se trouvent importants à leurs yeux. C'était intéressant, les premières expériences qui ont été faites en métropole, d'ailleurs, ça a été, on aurait pu l'avoir ici comme vœu, ça a été sur les déserts médicaux. On pourrait même avoir une saisine sur la nécessité d'avoir un CESE pour en avoir une, ça ne nous gêne pas. Dans le système anglophone, ça n'existe pas. Et souvent, ils disent, c'est quelque chose de bien. Alors, ils ne l'ont pas, ils disent que c'est bien. Nous, on l'a, il y en a des gens qui disent que ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, tout est ouvert.
Pour accéder à la plateforme, les administrés doivent se rendre sur le site internet du CESE.nc ou taper pétition avec un S.CESE.nc, pétition.CESE.nc dans la barre de recherche. Que cela soit pour consulter les pétitions ou en soumettre une, il faudra se connecter avec son compte NC Connect. Judith Mussard, secrétaire générale adjointe du CESE, détaille les démarches de la mise en ligne d'une pétition une fois inscrite sur la plateforme.
Une fois que vous êtes à l'intérieur de cette plateforme, vous pétitionnez en remplissant les zones dédiées, votre prénom, votre nom, qui resteront, je le précise, anonymes. Une fois que c'est fait, le CESE, il a un mois pour se prononcer sur la validité, si ça respecte bien les conditions de la charte, ainsi que les domaines de compétences de l'institution. Une fois validée, la pétition devient officielle, elle apparaît sur le fameux site et elle doit obtenir 400 signatures en 2 mois. Si les 400 signatures au bout de 2 mois ne sont pas obtenues, soit on ne donne pas suite, soit si le sujet est vraiment intéressant, le bureau peut donner un délai supplémentaire. Si les 400 signatures sont obtenues, le bureau donc valide la pétition et les travaux sont entrepris dès que possible en fonction de la charge de l'institution.
Depuis la mise en ligne de la plateforme le 14 mars dernier, 5 pétitions relevant de thèmes économiques ou sociaux ont été déposées. Elles seront analysées dans les prochains jours avant validation. Si les pétitions sont mises en ligne, elles devront donc récolter 400 signatures dans un délai de 2 mois pour ensuite être examinées par le CESE. 17h59, première pause dans ce journal et nous verrons ensuite l'actualité militaire avec une cérémonie de présentation au drapeau. C'était ce matin à Koné.
Des problèmes de termites de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flick Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flick Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flick Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Cinef au soir, Léana Colombo.
Dans l'actualité militaire, cette cérémonie ce matin à Koné, cérémonie de présentation au drapeau des jeunes volontaires du RSMA, le régiment du service militaire adapté, qui ont terminé leur formation militaire initiale qui aura duré un mois. Cette cérémonie était présidée sur la place des Poilus de Koné par le lieutenant-colonel Faldoni Révillon, le commandant du RSMA en Nouvelle-Calédonie.
Alors c'est effectivement un moment très fort, à la fois pour les jeunes, parce que ça vient clôturer une phase de 4 semaines où ils ont quitté leur famille, quitté leur tribu, quitté leur village pour venir travailler au régiment du service militaire adapté. C'est un moment fort également pour les cadres, puisqu'on voit concrètement le résultat de ces 4 premières semaines de formation professionnelle. Et c'est surtout un moment fort pour les familles qui permet à vos familles de matérialiser la confiance qu'ils nous donnent dans l'accompagnement de leurs jeunes vers l'emploi.
Et à l'issue de leur formation militaire initiale, les volontaires du RSMA vont entamer leur formation professionnelle. Cette seconde partie du parcours au sein du régiment va durer 9 mois dans diverses filières de formation proposées par le RSMA. Les précisions du lieutenant-colonel Révillon.
L'offre de formation du RSMA ne cesse d'évoluer en permanence pour s'adapter au contexte calédonien. Et en particulier en ce moment, on travaille finement avec le gouvernement calédonien, avec le Congrès, mais également avec les provinces pour orienter, créer de nouvelles filières qui prendront place en 2025. Première filière qui va permettre la création et la reprise d'activité pour des jeunes qui voudraient se lancer dans une activité patentée, par exemple. Puis une deuxième filière de formation professionnelle qui va pouvoir s'adapter au claquement de doigts, aux besoins spécifiques du territoire. Et la première itération de cette filière devrait être celle d'installateur en signalisation routière.
Le lieutenant-colonel Faldoni Révillon, le commandant du RSMA en Nouvelle-Calédonie, joint par téléphone par Lionel Sabot. Santé maintenant, et la SSNC continue sa campagne de dépistage du rhumatisme articulaire aigu auprès des enfants. Les équipes de l'Agence sanitaire et sociale étaient présentes ce matin à l'école Edmond Desbrosses de Caméré, Jean-François Baudin.
La Nouvelle-Calédonie est un territoire à haut risque de cardiopathie rhumatismale. 250 nouveaux cas sont recensés chaque année et plus de 75% concernent des personnes de moins de 20 ans. L'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie organise donc depuis 2008 des dépistages de rhumatisme articulaire aigu, aussi appelé RAA, chez les enfants de CM1. Dépistage simple, rapide et gratuit pour détecter cette maladie dite silencieuse mais grave qui peut apparaître 2 à 3 semaines après une infection de la gorge ou de la peau. Ce matin, à l'école Edmond Desbrosses de Caméré, c'est le cardiologue Dominique Choquet qui réalisait les échographies.
Je suis en train de faire une échographie cardiaque. Et l'échographie, c'est un examen avec des ultrasons qui permet de faire des coupes sans faire mal et regarder les structures du cœur et le fonctionnement. En l'occurrence, là, c'est les valves que je regarde précisément et je regarde si elles sont parfaitement étanches, si elles ne sont pas abîmées. Là, c'est juste du dépistage. Donc, je vais prendre 2-3 minutes par enfant. Et si je vois une petite anomalie, eh ben on va le revoir pour passer un peu plus de temps et vérifier qu'il y a vraiment des anomalies.
Chaque année, après cette échographie réalisée à l'école, ce sont 400 enfants qui nécessitent un contrôle supplémentaire et parmi eux, 150 sont diagnostiqués avec une pathologie cardiaque. Grâce à ce dépistage précoce, un suivi médical et un traitement adapté peuvent être mis en place avant l'apparition de complications plus graves.
Et si de vieux t-shirts usés pouvaient avoir une seconde vie? Si les cendres pouvaient servir à laver les vêtements? Aujourd'hui, 20 élus du conseil municipal junior ont participé à un atelier sur la valorisation des déchets. Ils étaient réunis autour de 2 activités et ont confectionné de leurs mains plusieurs ustensiles et produits qu'ils pourront bien réutiliser chez eux.
Vous prenez un tissu comme ça, là. Dans un jour, quand vous allez filtrer la lessive, vous passez au travers d'un tissu ou au travers d'un filtre à café, etc. et un tissu.
On est en train de faire de la lessive avec de la cendre. Je mets de la cendre, après je mets de l'eau, puis après on doit attendre un jour, après on le filtre et après normalement c'est bon.
Je suis en train de faire une éponge en coton Bah, tu prends deux fils de coton et tu les mets en zigzag. Et après, tu mets le deuxième fil au-dessus et en dessous. On peut le réutiliser et ça nous permet aussi de faire chez nous.
C'est pour recycler parce que les éponges sont en plastique et du coup, bah, le plastique, ça pollue et c'est pas très bien.
Et peut-être ces jeunes deviendront-ils des ambassadeurs du tri auprès de leurs familles et camarades. C'est en tout cas ce qu'espère Julie Schellenberger, chef du service de la vie éducative à la ville de Nouméa.
Cet après-midi, c'est une séquence dédiée exclusivement à la gestion des déchets, ce que la ville fait en termes de déchets, et ils ont des ateliers aussi pour expliquer à quel point on peut réutiliser ces ressources à autre chose. Alors oui, ils vont partir ensuite avec ce qu'ils auront découvert aujourd'hui, et puis c'est une séquence qui leur permet, dans leur parcours citoyen, d'être sensibilisés à cette thématique de l'environnement qui revient à chaque mandature des conseillers juniors, parce que bien sûr, c'est extrêmement important pour eux et pour nous de les accompagner sur cette démarche.
Les ateliers ont été organisés par le service eau, électricité, déchets de la ville de Nouméa. Un deuxième groupe de jeunes élus sera convié le 23 avril pour en apprendre plus sur la gestion des déchets. Il est 18h05, seconde pause avant de faire un tour du côté de l'actualité dans le Pacifique. A tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et l'actualité dans la région, preuve que les législatives de l'an prochain vont être âprement disputées aux îles Fidji. 14 nouveaux partis politiques ont déposé leur dossier auprès de la commission électorale. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Parmi ces nouveaux partis figure le parti de la libération des Fidji, le parti républicain, le parti populaire, celui de la solidarité, les Verts, le parti du Congrès national fidjien et le parti du Royaume des Fidji. Les groupes politiques en question ont déposé leur statut complet auprès de la commission électorale qui les a tous acceptés. L'an prochain, ils se mettront donc en lice contre le parti travailliste de l'ancien Premier ministre Mahendra Chaudhry, le Sodelpa de Vilame Gavoka, le parti de la Fédération nationale de Miman Prasad et le parti de l'Alliance populaire de l'actuel chef de gouvernement, Sitiveni Rambuka. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Retour sur le territoire et le stade Pentecôte a vibré pour le Mundialito du lycée Blaise Pascal ce mercredi matin. Un événement récréatif au profit de tous les élèves, Michael Juneski.
Ouais, près d'un millier d'élèves rassemblés à cette occasion pour participer à des tournois de football tout au long de la matinée. Le tout dans une belle ambiance. Chaque classe défendait un pays, avait conçu ses maillots avec ses supporters. Un événement mis en place avant tout pour renforcer la cohésion entre les lycéens et les étudiants de Blaise Pascal.
Ben, franchement, c'est bien organisé, on s'amuse, on rigole, franchement, c'est net, good vibes. On a bien joué, on s'est bien dépensé quand même. On a tous gagné pour moi.
Là, je soutiens l'équipe de la Turquie. Personnellement, je trouve ça bien, ça change des cours. Ça nous libère, on va dire.
Franchement, c'est bien et tout, on s'amuse.
C'est merveilleux.
Votre équipe, elle a gagné ou...
C'est un sujet sensible, très sensible. Mais c'est l'intention qui compte.
C'est ça, l'important...
C'est de gagner. Ah, de participer.
Je vois que là, il y a des sacrés fans, c'est ça? C'est quoi votre équipe?
USA! C'est trop, trop bien. Pour une première, c'est vraiment... C'est trop bien.
Et vous, à côté, je vois que vous avez les décorations.
Bah, c'est pour faire supporter, pour faire pop-pom girl, pour encourager notre équipe.
Ça se passe bien, en vrai. Je veux dire, il y a tout le monde qui est en compétition et du coup, ça fait du bien, on va dire.
C'est quel pays, vous?
Brésil.
Et moi, l'Iran.
On a juste gagné un match. Mais...
Le Brésil n'a gagné qu'un match?
Oui.
C'est intéressant, c'est assez amusant. Puis après, il n'y a pas que du foot, il y a aussi d'autres activités. Et puis...
Bah, ça va, en vrai, c'est bien. Enfin, c'est une bonne journée de cohésion, quoi. Enfin, on s'amuse.
Une centaine de professeurs qui étaient également impliqués donc dans cette matinée sur le thème de la Coupe du Monde de football.
Voyons le sport hors du territoire avec du basket. 3 contre 3 et nos représentants présents aux qualifications pour l'Asia Cup, Mickaël.
Oui, les Calédoniens qui se sont ouverts un nouvel horizon à Singapour pour tenter de briller sur la scène internationale en 3-3. L'objectif est de bousculer les grandes nations de cette zone. Le premier match opposera les Calédoniens à l'équipe de Thaïlande. Ce sera exactement à partir de 19h05 ce soir pour nous. La rencontre suivante pour nos représentants, ce sera face aux Vietnamiens à partir de 23h45 de Nouméa, avant d'enchaîner contre le Turkménistan pour le compte du groupe D. Ça, ce sera demain aux environs de 18h50.
Eux terminent leur séjour en Australie, des Calédoniens qui étaient engagés au championnat jeune de cyclisme sur piste de l'île continue.
Oui, la compétition qui s'achève pour 3 jeunes de l'école calédonienne du vélo, Hugo Gardin, 14 ans, Enzo Martoreggio, 15 ans et Chad Charret, 16 ans. Sur les dernières épreuves du jour, les sprinteurs Enzo Martoreggio et Chad Charret étaient engagés sur le Keirin. Enzo a montré de grands progrès à l'issue de cette semaine. Il a terminé deuxième de sa course de repêchage. Chad Charret a lui terminé dernier de sa série. Mais là encore, de l'expérience précieuse est engrangée dans le haut niveau pour pouvoir continuer d'améliorer le niveau du cyclisme sur piste sur le territoire.
Merci Mickaël Juneski. 18h10, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors, pas de mondialito, mais la météo avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, l'ouest retrouvera un ciel dégagé après l'évacuation de quelques averses résiduelles en soirée. Ailleurs, les nuages domineront largement et seront parfois accompagnés d'averses. Sur l'ouest, le vent faiblira entre 5 et 10 nœuds, mais avec des accélérations possibles dans certaines vallées. Ailleurs, il mollira progressivement autour de 15 nœuds, mais restera proche de 20 nœuds sur la pointe nord. Les températures minimales baisseront légèrement et seront comprises entre 22 et 26 degrés. Demain matin, sur l'ouest, le soleil dominera. Ailleurs, les alternances d'éclaircies et de passages nuageux, parfois accompagnées d'averses, notamment sur le sud-est où elles seront plus fréquentes. L'alizée d'est-sud-est soufflera autour de 15 nœuds, localement 20 nœuds sur la pointe nord et 10 nœuds sur l'ouest.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 19h pour le rappel des principaux titres de l'actualité. Et tout de suite, c'est le journal d'Europe 1, suivi à 18h30 de l'interview d'Europe 1. Sonia Mabrouk recevra le député RN Jean-Philippe Tanguy.